Alors, la Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Nous vous proposons ce soir, tout d'abord, un entretien avec l'historien Alfred Dubuc, né à Chicoutimi en 1929. En toute intimité et en toute simplicité, M. Dubuc nous parlera de sa vie et de son œuvre. Et en seconde partie de l'émission, à l'occasion de la parution du bulletin d'histoire politique, l'édition printemps-été 2014, la suite du débat sur l'enseignement de l'histoire au secondaire et au collégial avec l'historien Julien Prudhomme.
Texte de Clermont-Gauthier qui, après avoir bien critiqué les visions radicales de l'approche par compétence, a bien montré que ces visions radicales de l'approche par compétence, qui se voulaient plus démocratiques, disons, par l'approche par compétence, on va s'éloigner de l'élitisme du par cœur, on va s'éloigner de l'élitisme de la culture générale au profit de savoir-faire. Dans les faits, on a vu, puis les derniers résultats sont très probants à cet égard, ont montré que dans bien des cas, des programmes tellement désincarnés, que les élèves s'y perdent et que ceux qui s'y perdent le plus sont ceux qui viennent de milieux défavorisés. Alors, dans le fond, contrairement à ces promesses démocratiques, la version radicale de l'approche par compétence qui a été mise en œuvre dans les derniers programmes a souvent eu l'effet inverse de favoriser les élèves favorisés qui ont déjà un bagage de connaissances au détriment des élèves défavorisés qui auraient besoin qu'on leur transmette ces connaissances-là en salle de classe. Et de ces constats, messieurs Assoumi Bendené, Gauthier et leurs collaborateurs de diverses universités, au diapason de gens du monde entier d'ailleurs, soutiennent ce qu'ils appellent une pédagogie plus directe et plus directement ancrée dans les connaissances, ou qui nous permettent de partir d'un enseignement pas traditionnel au sens des années 50-60, mais d'un enseignement qui part des connaissances pour permettre à l'élève, en explorant les connaissances et en apprenant, c'est une pédagogie qui aide plus les élèves à comprendre c'est quoi la démarche, puis à comprendre c'est quoi le lien entre les choses qu'on leur apprend, entre les savoirs qu'on leur transmet et les savoir-faire qui peuvent leur être associés. Et ça, c'est beaucoup plus à la fois respectueux des savoirs eux-mêmes et de la manière d'apprendre des élèves.
En cette première partie d'émission, Robert Comeau s'entretient avec l'historien Alfred Dubuc, né à Chicoutimi en 1929. Ce soir, Alfred Dubuc se raconte. Il nous parlera de sa vie, de son œuvre, mais plus encore, il sera question de ses études, de son époque, de ses souvenirs et de ses recherches. Alfred Dubuc a été professeur au département de sciences économiques de l'Université de Montréal et au Collège canadien des travailleurs de 1959 à 1966. Puis, il enseigne au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal de 1969 à 1996. Ses recherches portent principalement sur l'histoire et les entreprises de la famille Molson, sur l'histoire et sur les activités de la compagnie Consolidated Bathurst, ainsi que sur l'histoire économique et sociale du Canada et du Québec au 19e et au 20e siècle.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alfred Dubuc, qui a été professeur d'histoire du Canada à l'Université de Montréal, puis à l'UQAM. Bonjour Alfred.
Bonjour Robert.
J'aimerais, M. Dubuc, que vous nous parliez un peu de votre carrière d'historien, de professeur d'histoire économique, surtout à l'UdeM et à l'UQAM, mais peut-être commencer par les débuts. Vous venez de la région du Saguenay.
Oui, je viens de Chicoutimi. Je suis né en 1929.
C'est votre grand-père qui avait une compagnie de papier.
La compagnie de pulpe et de papier. Une grande compagnie qui, durant les années, disons, 1915-1920-23, était reconnue comme la plus grosse compagnie de production de pulpe au Canada. Il exportait surtout vers les États-Unis et vers l'Europe, particulièrement l'Angleterre.
Et le comté, d'ailleurs, de Dubuc vient...
De mon grand-père, oui. Et mon grand-père, lors de ma naissance, mon grand-père qui avait perdu ses entreprises, après la crise qu'on néglige souvent, de 1922, qui a marqué très fortement l'industrie des pâtes et papiers, ça a été le moment où mon grand-père a dû se retirer de cette entreprise. Il est devenu, en 1925, député fédéral. Et dans mon enfance, donc, mon grand-père, c'était le député du comté à Ottawa.
Vous êtes toujours intéressé à la politique, donc, par le biais de la famille?
Oui, parce que non seulement mon grand-père était le député, mais mon père était comme son agent politique dans la préparation des élections. Mon père était lui-même un entrepreneur dans le domaine de la téléphonie, mais durant les campagnes électorales, il s'occupait beaucoup de la campagne de son père.
Et vous êtes venu étudier à Montréal ou à Québec?
J'ai fait d'abord l'école primaire à Chicoutimi, puis mes parents m'ont placé au Collège Brébeuf à Montréal pour les études classiques, donc. Et puis, oh, peut-être je peux en parler, moi je me destinais par mes options politiques qui étaient déjà à l'encontre de celles de mon père, qui étaient beaucoup plus sociales, mon père davantage économique. Moi, j'aurais voulu aller à l'École des sciences sociales de l'Université Laval du père Lévesque. Mais mon père s'est farouchement objecté et m'aurait coupé les vives si j'avais été à Québec. Alors, je suis entré en droit, espérant pouvoir poursuivre les sciences sociales après le droit. Voilà, j'ai terminé mon droit en 54. Puis, je me suis rendu en Belgique, à l'Université de Louvain, où j'ai suivi les cours de sciences politiques sociales. J'ai obtenu ma maîtrise en 1957. De là, je suis allé à Paris pour commencer mes études de doctorat auprès de Fernand Braudel, de l'École des sciences politiques et sociales.
Il vous présentait d'ailleurs comme un représentant, un disciple de Braudel au Canada, je me souviens très bien, ces années-là.
Oui.
Vous avez terminé donc une thèse, et c'était sur Molson.
Bien, en fait, Braudel ne connaît pas l'histoire du Canada. Donc, mon projet de thèse que me suggérait Braudel avait trait à l'histoire de la Renaissance en Méditerranée, particulièrement dans les relations économiques ou commerciales entre Venise et sa colonie Raguse, qui est aujourd'hui Dubrovnik. Donc, Braudel aurait voulu que je travaille surtout à Dubrovnik. D'ailleurs, j'ai passé un été à Dubrovnik dans les archives de l'ancienne Raguse pour revenir à Paris, mais c'était la fin de mon séjour. Je suis revenu au Canada en avril 1959 pour commencer à enseigner à l'Université de Montréal dès septembre qui suivait. J'ai été intégré au département des sciences économiques à l'Université de Montréal, mais mon enseignement était donné à l'ensemble de la faculté des sciences sociales. Donc, les étudiants des divers départements de la faculté suivaient mon cours, ce qui me faisait des auditoires inconcevables. J'avais 200, 150, 200. Le score supérieur que j'ai frappé, c'est 325 étudiants que j'avais dans un auditorium.
C'était en histoire économique du Canada ou histoire politique?
À l'Université de Montréal, je donnais un cours d'histoire économique de l'Europe et un cours d'histoire économique du Canada.
Et comment on arrive à Molson, là?
Ah, c'est que lorsque j'ai quitté Paris pour Montréal, j'ai commencé mon enseignement. Et évidemment, j'étais très loin des archives de Dubrovnik. Je ne pouvais pas travailler là-dessus. Et par un hasard de circonstances, dans une rencontre un peu sociale, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans les bureaux de la brasserie Molson et qui s'est intéressé à mon projet d'histoire monétaire que j'avais. Il m'a dit, si vous pouviez venir aux archives des Molson, les archives se trouvent au sous-sol de l'édifice administratif des Molson. Il m'indique comment procéder pour demander la permission. J'ai obtenu la permission. Et dans les archives Molson, évidemment, il y avait très peu sur l'histoire monétaire, presque rien. Mais les archives étaient des archives extrêmement bien conservées. Les Molson avaient même engagé une archiviste, Mrs. White, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc, j'arrive là dans un dépôt d'archives parfaitement ordonné. C'était pour moi une mine d'or. Or, en feuilletant ces archives, je découvre un individu particulier, un nommé Thomas Molson, qui, lui, a gardé tous ses papiers toute sa vie. Même, j'ai découvert dans son testament une clause qui disait « J'interdis à mes héritiers de partager mes papiers. Ils devront rester ensemble. » Donc, comme je disais, une vraie mine d'or, et j'ai commencé à travailler la biographie de ce Molson. J'avais commencé donc en 1959, mon enseignement. En 1962, il y avait un congrès international d'histoire économique qui se donnait à Aix-en-Provence, en France. À cette époque, le Conseil des arts du Canada était très généreux envers les étudiants de doctorat et j'avais demandé une subvention pour me rendre à ce congrès international. À Aix-en-Provence, je rencontre Braudel et je lui raconte donc que j'avais découvert un dépôt d'archives, que je ne pouvais pas continuer ma thèse sur l'histoire monétaire à partir de Dubrovnik, que c'était impossible pour moi de quitter Montréal chaque été. J'avais 3 enfants et j'avais un dépôt d'archives extrêmement riche qui me permettait de continuer un travail de doctorat dans cette veine. Et Braudel m'a accepté, mais il m'a mis comme condition, ne m'envoyez pas votre thèse chapitre par chapitre. Faites votre thèse, vous me l'enverrez une fois terminée. Bon, ça me donnait beaucoup de liberté, mais en même temps, ça me laissait dans une certaine solitude. Les étudiants de doctorat, en général, échangent entre eux. Un directeur de thèse voit l'étudiant de temps en temps. Moi, j'étais tout seul. J'avais pas de collègues dans mon domaine à cette époque et je ne pouvais pas rencontrer, évidemment, mon directeur de thèse. Si bien que, malgré toutes les activités politiques auxquelles je me mêlais durant les années 60, j'ai réussi à terminer ma thèse de doctorat en 69. C'était l'année d'ouverture de l'UQAM. Comme j'avais eu des relations quasi hostile avec mon doyen de faculté à l'Université de Montréal, j'étais très heureux de quitter cette faculté et d'accepter de participer à cette expérience nouvelle d'une université neuve qui prétendait se détacher des modèles anciens.
En fait, votre enseignement était assez progressiste. Vous commenciez à parler des classes sociales pour interpréter l'histoire du Canada en termes de lutte de classe. Pour nous, c'était quelque chose d'assez nouveau, d'assez neuf. Donc, ça nous intéressait. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé très rapidement à l'UQAM, assez rapidement au début, là. Mais ouais. À ce moment-là, vous terminiez votre doctorat à Paris, si je me souviens bien, en 69, c'est ça?
C'est ça. Mais pour moi, vous voyez, très rapidement, je me suis aperçu que on ne peut isoler l'histoire économique. On ne peut l'isoler sans tenir compte du contexte politique et du contexte social. Il y a des luttes sociales qu'on ne peut laisser sous silence lorsqu'on traite de certaines évolutions économiques et politiques. Pour moi, le politique, l'économique et le social, j'essayais de les intégrer dans mes travaux et dans mon enseignement.
Et ça tranchait pas mal avec ce qui avait cours à ce moment-là à l'Université de Montréal, en particulier en histoire.
Oui.
Tantôt, vous avez souligné que vous étiez mêlé à des activités politiques. Est-ce que c'était le cercle Jacques Perrault, le cercle social? Vous avez connu Jacques Perrault, vous, dans ces années-là?
Moi, j'ai eu Jacques Perrault comme professeur à la faculté de droit. Mais il était décédé. Mais nous avions un groupe de professeurs de sciences humaines à l'Université de Montréal. Nous avions formé un club de réflexion politique et d'échange. Et nous avions choisi le nom de Jacques Perrault pour notre club. Je me souviens, c'est moi qui avais demandé à la veuve de Jacques Perrault l'autorisation de prendre son nom. Ce club Jacques Perrault se réunissait assez régulièrement. Nous avions des débats et nous avons décidé d'avoir notre revue. Et c'est là l'origine de la revue d'histoire économique et sociale. Je ne me souviens plus du nom exactement.
C'est pas la revue socialiste à ce moment-là?
Oui, la revue socialiste, c'est ça. La revue socialiste.
Qui va s'appeler plus tard Socialiste québécois. Avec M. Dauphiny, Rioux, Marcel Rioux.
C'est cette revue-là qui s'appelait Socialisme québécois et international.
Ah oui, oui, d'accord.
Avec Dauphiny, Rioux, tous ces gens-là étaient dans le groupe Jacques Perrault. Et le groupe Jacques Perrault est entré assez rapidement en relation avec des membres des centrales syndicales, Fernand Daou, Boudreau, etc., qui étaient très heureux de venir avec nous.
Est-ce que votre bon cœur était de ce groupe-là, Pierre Vadeboncoeur?
Non, Pierre Vadeboncoeur, nous le connaissions, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas s'il était membre, parce que nous avons fondé un parti, le Parti socialiste du Québec, en 1964. C'est nous qui l'avons...
Avec Michel Chartrand.
Avec Michel Chartrand, qui était notre imprimeur, l'imprimeur de notre revue. Et c'était avec nous et des représentants syndicaux qui avons fondé le Parti socialiste du Québec en 1964.
Et qui va participer aux élections de 66. Et évidemment, ne sera pas très glorieux, mais ils ont participé, je crois, à cette élection de 1966.
Oui, et selon... ceux du groupe qui s'objectaient à une action politique qui nous apparaissait prématurée, évidemment, nous avons constaté que ça a été quasiment la mort du parti, cette tentative électorale.
Il y a quelques membres qui ont rallié le RIN avec André Ferretti
en
66. Oui. Et je pense qu'André Ferretti va se faire élire vice-président du parti.
Oui,
et à ce moment-là, le RIN se donnait une orientation, l'indépendance pour les travailleurs, ce qui n'a pas duré longtemps, dès 67. Et en 68, le RIN disparaissait de la carte.
Mais je peux intervenir maintenant, ceux avec qui nous avions davantage de relations, c'était le groupe de Parti pris. Nous étions proches de Parti pris. Nous avions des débats avec eux. Nous n'étions pas des adversaires entre nous. Au contraire.
Est-ce que vous avez connu Maurice Séguin, qui était en histoire à ce moment-là, qui était un peu le théoricien du mouvement indépendantiste? Parce que je sais que Dostaler et puis surtout Gilles Bourg, qui ont écrit dans Parti pris, étaient proches des idées de Maurice Séguin. Hein?
Oui. Oui, sauf que je n'étais pas contre l'École de Montréal. Mais... mes travaux étaient tellement loin de ce qu'eux faisaient.
C'est plus une analyse sociale, une analyse des classes sociales Québec et des questions
c'est
économiques.
Ça. D'ailleurs, j'avais certaines relations avec eux. Par exemple, j'ai été invité à participer au jury du doctorat de Wallo, de Jean-Pierre Wallo. C'est Michel Brunet et Séguin qui m'avaient invité à siéger avec eux à ce jury. Donc, j'avais pas de relations hostiles avec eux. Mais on travaillait pas de la même façon, disons.
Donc, vous terminiez votre doctorat, Parti pris ferme en 68, et vous êtes invité à l'UQAM en 69, dès le début, je pense.
Oui, c'est ça. En fait, je me suis présenté
à
l'UQAM. Je suis allé voir le recteur avant que l'UQAM soit fondé. Bien, l'UQAM était déjà fondé, mais n'existait pas encore vraiment. C'était durant l'été. Et je m'étais rendu au bureau du recteur, du futur recteur de cette université, Léo Doré.
Qui venait de l'Université de Montréal à ce moment-là.
Et qui venait lui-même de l'Université de Montréal, que je connaissais comme ça. Et je lui ai offert mes services. Il m'a dit « Parfait ». Et c'est comme ça que je suis entré, avec l'appui, je pense, du département d'histoire du Collège Sainte-Marie. Avec leur appui, je suis rentré à ce nouveau département, au moment même de sa fondation.
Et là, vous avez enseigné surtout en histoire économique oui. du Canada, le grand cours d'introduction en Canada.
Oui, j'ai été invité à partager mon enseignement entre deux départements. Presque toute ma carrière à l'UQAM, j'ai enseigné et au département d'histoire et au département d'économique. Parce que le département d'économique désirait avoir un cours d'histoire économique du Canada dans la formation des étudiants. Et ça m'a permis donc de continuer cette double tâche d'enseignement.
Il y a eu beaucoup de débats au département d'économie, à savoir est-ce qu'on doit enseigner l'économie politique marxiste. D'ailleurs,
Louis Gill
a fait un peu l'historique de tout ça dans le dernier bulletin d'histoire politique.
Oui, oui.
Parce que ça a été une longue bataille. Il y a même eu des grèves étudiantes pour un deuxième prof capable d'enseigner le marxisme, parce qu'il y en avait un seul dans tout le département. Et finalement, je pense que le nouveau prof, c'était Gilles Dostaler, qui va être engagé au département de sociologie, hein? Vous avez été mêlé à ça dans ces...
Mais j'ai été consulté. On m'a consulté sur l'opportunité du marxisme en sciences économiques.
Ça, c'était dans les années 70, au fond. Et vous avez publié dans beaucoup de domaines. Les transports, c'était un de votre champ privilégié. Les bateaux, des Molson, sans doute,
ben
les
oui.
trains, toute la révolution des transports à partir de 1840. Il y a beaucoup de vos travaux là-dedans.
Oui.
Vous êtes retrouvé après le Parti socialiste. Vous avez été dans le mouvement des 100 là, avec Marcel Pepin, je pense.
Oui, j'ai été mêlé à ça aussi. C'était ma deuxième expérience de fondation d'un Parti socialiste. Oui, oui, j'ai été là-dedans, très proche.
Et à quel moment on peut dire que vous avez commencé à être un militant indépendantiste aussi, en plus de votre option sociale?
Ça s'est fait durant les années 60, quand on a fondé le Parti socialiste du Québec. Ce n'était pas un parti fédéraliste du tout, loin de là. Et la question nationale nous préoccupait beaucoup. À cette époque-là, nous en débattions beaucoup au Club Jacques Perrault.
Parce que Jacques Perrault, quand on connaît un peu Jacques Perrault, on sait qu'il a mené des batailles importantes face à Mme Thérèse Casgrain pour la reconnaissance des deux nations. Parce que Perrault était lié à André Laurendeau.
Oui, oui, oui.
Alors, de ce point de vue-là, il était plus...
C'était son beau-frère.
C'est ça.
Ouais.
Alors, il était plus sensibilisé à la question nationale.
Oui.
Est-ce que vous avez connu un peu Jacques Perrault, au moins peut-être... Parce que nos éditeurs connaissent peut-être pas Jacques Perrault, qui est un personnage important, qui est un peu le Michel Chartrand des années 50... qui était professeur de droit à l'Université de Montréal. Et d'ailleurs, la bibliothèque s'appelle Antonio et Jacques Perrault. Antonio était son père et Jacques Perrault. Et il avait un enseignement assez engagé, si je me souviens.
Oui.
Si ce que je lis est exact.
Pour nous, les étudiants en droit, nous avions Jacques Perrault comme professeur. Et c'était pour nous le seul professeur qui nous ouvrait des horizons ailleurs que le strict juridique, qui nous ouvrait à une conception plus sociale du droit. Il nous enseignait le droit du travail, d'ailleurs. Et c'était pour nous une fenêtre d'air frais, si vous voulez. Et on suivait avec beaucoup d'attention les cours de Jacques Perrault.
Il avait mené des combats importants contre la commission de la CRO, la commission des relations ouvrières. C'était le conseiller de Mgr Charbonneau, c'était l'éminence grise du devoir, il était président, je crois, du conseil d'administration du devoir. C'est lui qui a fait entrer Fillon au devoir. C'était un progressiste important de ces années-là et peu connu à cause de son suicide, je crois, c'est en 56. Hein?
Oui.
Alors après ça, on n'a plus parlé de Jacques Perrault, il est disparu du paysage. Oui. Alors vous aviez ressuscité son nom en créant le cercle socialiste à l'époque. Donc si on revient à l'UQAM, vous avez quitté l'UQAM en quelle année?
En 97, pour ma retraite.
Y a-t-il des projets d'écriture ou des choses qui...
J'ai des projets d'écriture, mais je suis un peu paresseux. J'ai beaucoup de textes que je pourrais publier, effectivement, si je me donnais la peine de m'en occuper.
Il faudrait un éditeur qui vous talonnerait un petit peu.
À qui pensez-vous?
C'est une blague. Bon, alors, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange à bâton rompu. Merci beaucoup, Alfred Dubuc.
Très bien.
Lui est un bois joli, le rossignol lui chante tout le jour et la nuit. Guilnola, guilnotier du joli mois de mai. Il chante pour les filles qui n'ont point de mari, pour moi il ne m'habille, car j'en ai un joli. Guilola, guile rosier, tu joli mois de lui. Il n'est pas en Espagne, il est tout près d'ici. Il est dans la montagne, les bûcherons l'ont pris. Guilola, guile rosier, tu joli mois de lui. Donneriez-vous la belle qui la menerouette ici? Je donnerais Sorel qui vécu Saint-Denis. Guilola, guile rosier, du joli mois de mai. Je donnerais Sorel qui vécu Saint-Denis. La rose la plus belle de mon jardin. Guilola, guile rosier, du joli mois de mai.
Vous venez d'entendre l'entrevue que nous accordait l'historien Alfred Dubuc, né à Chicoutimi en 1929. Il nous a parlé en toute simplicité de sa vie et de son œuvre. Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Et en deuxième partie de l'émission, à l'occasion de la parution du Bulletin d'histoire politique, édition printemps-été 2014, Robert Comeau poursuit son entretien avec Julien Prudhomme, qui a coordonné le second dossier du bulletin d'histoire politique intitulé « Le débat sur l'enseignement de l'histoire ». Rappelons que Julien Prudhomme est le secrétaire général du comité de travail sur l'enseignement de l'histoire qui remettait en février dernier son rapport intitulé « Le sens de l'histoire ». Ce rapport, déposé auprès de Mme Malavoie, ex-ministre de l'Éducation sous le gouvernement du Parti québécois, était à la base de l'importante réforme de l'enseignement de l'histoire qui touchait non seulement le programme d'histoire au secondaire 3 et 4, mais également l'offre de cours au collégial. Ce rapport, faut-il le rappeler, a été mis en veilleuse par le nouveau ministre de l'Éducation au Québec, M. Yves Bolduc. Précisons également que Julien Prudhomme est associé au Centre interuniversitaire des recherches sur la science et la technologie de l'Université du Québec à Montréal et chargé de cours en histoire à cette même université.
Alors, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau l'historien Julien Prudhomme. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous nous avez parlé à une rencontre précédente du rapport « Le sens de l'histoire ». Oui. C'est un rapport là, qui a été remis en février 2014 portant sur l'enseignement de l'histoire en secondaire 3 et 4. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre volet, mais toujours la question de l'enseignement de l'histoire au secondaire. C'est le travail que vous avez fait pour le bulletin d'histoire politique. Vous avez coordonné un important dossier sur cette question-là qui regroupe une quinzaine de personnes. Et j'aimerais qu'on puisse en parler. C'est un dossier qui vient de paraître dans l'édition du printemps-été 2014, le volume 22, numéro 3. Alors, vous avez recruté donc une quinzaine d'auteurs dans différents...
J'ai recruté des auteurs de tous les horizons, c'est-à-dire autant des gens du milieu scientifique que des praticiens de l'enseignement, et à l'intérieur du milieu scientifique, autant des didacticiens, c'est-à-dire des spécialistes des sciences de l'éducation, que des historiens, des spécialistes de l'histoire.
Je vous cache pas que comme membre, comme co-directeur du bulletin, on voulait un peu sortir de l'impasse. On avait l'impression que le débat n'avançait plus à cause de l'opposition historien-didacticien. Mm-hmm. Et on souhaitait un dossier plus approfondi qui irait plus au fond des choses, de façon moins polarisée aussi. Et je pense que ça a été une grande réussite. Alors, on va essayer de prendre quelques-uns dont on peut pas aborder les 15 auteurs. Mais moi, un premier article qui m'a surpris, c'est peut-être le vôtre, où vous expliquer que dans l'opposition au programme, il y a eu différentes étapes, donc différents courants d'opposition. Peut-être que vous pourriez nous les présenter rapidement. Ceux qui se sont opposés au programme dès 2006, pour vous, il y a eu comme deux moments dans cette opposition-là.
Oui. Dès que les nouveaux programmes d'histoire du Québec au secondaire, c'est-à-dire en secondaire 3 et 4, ont commencé à être connus du grand public au printemps 2006, de nombreuses, mais surtout de diverses critiques ont été formulées à l'endroit de ces nouveaux programmes. Certains, notamment des historiens universitaires, critiquaient le déséquilibre entre compétences et connaissances, c'est-à-dire le déséquilibre qu'entraînait une nouvelle approche pédagogique, l'approche par compétences, qui, dans sa version radicale, qui était celle du programme, semblait dévaloriser et minoriser, pour le dire comme ça, la place des savoirs et de la transmission de connaissances précises sur l'histoire. Notamment au profit d'une éducation à la citoyenneté qui, pour plusieurs, semblait vouloir transformer l'histoire en prêchant un peu moralisateur.
Sur cet aspect-là, je dois dire que c'est surtout les syndicats, c'est des syndicalistes qui se sont opposés sur cette question-là de l'approche par compétences. D'ailleurs, c'est l'origine...
Il y a eu deux types d'acteurs. Il y a eu effectivement des syndicalistes qui ont refusé cette attaque en règle contre l'autonomie enseignante. Et d'ailleurs, certains se sont réunis dans la nouvelle Fédération autonome de l'enseignement pour lutter contre ce qui percevait être des dérives de l'approche par compétences, entre autres choses. Mais aussi beaucoup de scientifiques, d'historiens, plusieurs universités différentes, considéraient que, dans le cas de l'histoire, cette approche par compétences venait travestir l'histoire comme connaissance scientifique et aussi venait trahir ce que l'histoire pouvait apporter à la formation d'un jeune et à la société. Donc, il y avait une grande variété de critiques, tandis que d'autres, par ailleurs, constataient que les premières moutures des nouveaux programmes laissaient de côté, à bien des égards, ce qu'on appelait la trame nationale, c'est-à-dire toute la dimension nationale de l'histoire, et se refusaient à traiter le rôle pourtant réel de la dimension nationale dans la transformation du Québec. Pas qu'il n'y a que la trame nationale dans la vie, mais qui n'en demeure pas moins, qui est quand même difficile de comprendre l'histoire du Québec et l'actualité d'aujourd'hui si on ne tient pas compte de ça. Cette efflorescence de critiques-là s'est un peu tarie au fil des années, c'est-à-dire qu'à partir, grosso modo, de 2008-2009, on a vu, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, le débat s'est polarisé autour de la seule question nationale. Et d'une vision un peu caricaturale, peut-être, de l'enseignement d'une histoire nationale. Si bien que là, on est arrivé à de fausses polarisations, où là, on disait, où certains disaient que ceux qui voulaient transformer les programmes de 2006 ou corriger les programmes de 2006 n'étaient que des ultranationalistes conservateurs qui voulaient faire de la propagande indépendantiste grossière et utiliser l'enseignement de l'histoire à cette fin. Tandis que de l'autre côté, on disait que ben, ceux qui défendaient les nouveaux programmes étaient des didacticiens complètement décrochés de la réalité et qui voulaient imposer à nos élèves des lubies pédagogiques complètement farfelues. C'est de cette polarisation-là qu'il fallait sortir dans le cadre des consultations engagées par le ministère, et c'est aussi de cette polarisation dont on voulait sortir dans le dossier du bulletin d'histoire politique.
Alors, parlons d'un premier article, celui de Gérald
que vous avez nommé,
Boutin, qui montre que les réformateurs du programme s'inspirent peu des recherches, d'abord en sciences de l'éducation, et surtout qu'il n'y a pas de consensus du côté des didacticiens pour...
Il y a eu un problème. Au début des débats, les promoteurs du nouveau programme de 2006 se réclamaient des sciences de l'éducation, se réclamaient de la didactique pour affirmer que la recherche scientifique en éducation défendait de façon claire et univoque tout ce qu'il y avait dans le programme de 2006. Et les critiques de ce programme ont un peu acheté cette affirmation en disant « ben si c'est de même, les sciences de l'éducation, ça vaut rien, puis on s'oppose en bloc à cette idée d'approche par compétences ». Ça n'a pas aidé la discussion. Ce qu'on constate, rétrospectivement, ce qu'on constate, c'est que, dans le fond, le programme de 2006, les postulats pédagogiques derrière le programme de 2006, affirmés par le programme de 2006, ne sont pas représentatifs des sciences de l'éducation. Qu'en fait, à l'intérieur même des sciences de l'éducation, il y a beaucoup de débats, par exemple sur l'approche par compétences et surtout sur la meilleure manière de l'incarner en classe. Il y a des approches plus radicales de l'approche par compétences, des visions radicales des compétences qui se retrouvent dans le programme, alors qu'on retrouve à l'intérieur même des sciences de l'éducation des voix beaucoup plus modérées qui défendent une vision de l'approche par compétences qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus respectueuse de l'intégrité des savoirs, par exemple, et du rôle de l'enseignant, de la transmission des savoirs en salle de classe. Et quand on lit la littérature scientifique en sciences de l'éducation, on voit que plus on avance dans le temps, plus les visions radicales de l'approche par compétences sont critiquées et qu'il n'y a pas de consensus, en fait, à cet égard. Le texte de Gérald Boutin, un peu comme le mien, d'ailleurs, dans ce dossier, nous rappelle cette absence de consensus dans les sciences de l'éducation, avec d'autant plus de force que M. Boutin lui-même, comme d'autres contributeurs du dossier, comme M. Clermont-Gauthier, sont eux-mêmes des spécialistes des sciences de l'éducation, sont eux-mêmes des personnalités assez éminentes dans les facultés des sciences de l'éducation et nous informent du fait que de l'intérieur des sciences de l'éducation, on critique la vision radicale que les programmes mis en œuvre dans les années 2000 impose à nos enseignants.
Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'aller chercher des textes ou des références à de nombreux auteurs britanniques, américains ou même français qui ont fait une critique quand même approfondie de l'approche par compétences? Moi, j'étais un peu déçu de ça parce que Normand Baillargeon avait préparé un recueil de textes, et je ne sais pas si ça doit être publié bientôt, de nombreux auteurs pédagogues qui critiquent l'approche par compétences. Vous le dites, mais...
C'est sûr que dans un dossier comme celui-là, on approche beaucoup de gens, puis c'est pas tout le monde qui peut dire oui. Des gens comme Baillargeon ou d'autres sont très occupés, ils prennent divers engagements. Alors, M. Baillargeon, qui avait été approché, n'a pas pu contribuer pour d'excellentes raisons. Par contre, c'est exprimé de façon très claire sur d'autres tribunes. Dans le dossier, par contre, vous allez trouver des gens qui tiennent un propos analogue avec le même genre de référence. Mon propre texte le fait. Le texte de M. Boutin le fait. Le texte de M. Gauthier le fait de
Clermont
façon
Gauthier,
très...
Clermont-Gauthier, qui enseigne à l'Université Laval.
À l'Université Laval, qui, avec plusieurs collègues de diverses universités, a défendu sur plusieurs tribunes, y compris de façon bien vulgarisée dans le dossier du bulletin d'histoire politique, l'idée qu'il existe ce qu'on appellerait, vous et moi, une vision modérée de l'approche par compétences, plus respectueuse des connaissances, plus respectueuse de l'autonomie enseignante et surtout plus respectueuse de la manière d'apprendre des élèves à qui on ne peut pas enseigner de façon totalement désincarnée.
Si on revient au texte de Clermont-Gauthier, qui met l'accent sur ce qu'il appelle les exigences explicites des disciplines, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un peu cette approche-là, ce qu'il appelle l'enseignement explicite, et en particulier chez les étudiants qui viennent, ou les élèves qui viennent de milieux défavorisés, montre que c'est beaucoup plus efficace?
Bien, texte de Clermont-Gauthier et de son collaborateur Clotaire Assoumé-Mendené, qui... après avoir bien critiqué les visions radicales de l'approche par compétences et bien montré que ces visions radicales de l'approche par compétences, qui se voulaient plus démocratiques, qui disaient par l'approche par compétences, on va s'éloigner de l'élitisme du par cœur, on va s'éloigner de l'élitisme de la culture générale au profit de savoir-faire. Dans les faits, on a vu, puis les derniers résultats sont très probants à cet égard, ont montré que dans bien des cas, des programmes tellement désincarnés que les élèves s'y perdent et que ceux qui s'y perdent le plus sont ceux qui viennent de milieux défavorisés. Alors, dans le fond, contrairement à ces promesses démocratiques, la version radicale de l'approche par compétences qui a été mise en œuvre dans les derniers programmes a souvent eu l'effet inverse de favoriser les élèves favorisés qui ont déjà un bagage de connaissances au détriment des élèves défavorisés qui auraient besoin qu'on leur transmette ces connaissances-là en salle de classe. Et de ces constats, messieurs Assoumé-Mendené, Gauthier et leurs collaborateurs de diverses universités, au diapason de gens du monde entier d'ailleurs, soutiennent ce qu'ils appellent une pédagogie plus directe et plus directement ancrée dans les connaissances, ou qui nous permettent de partir d'un enseignement pas traditionnel au sens des années 50-60, mais d'un enseignement qui part des connaissances pour permettre à l'élève, en explorant les connaissances et en apprenant ces connaissances...
En étant plus explicite sur la démarche.
Oui, un enseignement, une pédagogie explicite qui est plus explicite sur la démarche. Tu sais, les versions radicales là, de l'approche par compétences, ça revient un peu à lancer un enfant dans le 12 pieds puis à lui dire de nager. Il y a un peu de ça dans les approches radicales
c'est
de l'approche par...
C'est débrouiller, faire des projets. Alors, c'est sûr que les enfants qui viennent de milieux enrichis sont capables de se débrouiller beaucoup plus facilement.
C'est ça. Fait que ceux, les enfants de milieux favorisés qui ont eu des cours de natation quand ils étaient petits, ils savent déjà nager ou ils ont déjà les bons réflexes. Tandis que, c'est ça, une pédagogie plus explicite, c'est une pédagogie qui aide plus les élèves à comprendre c'est quoi la démarche, puis à comprendre c'est quoi le lien entre les choses qu'on leur apprend, entre les savoirs qu'on leur transmet et les savoir-faire qui peuvent leur être associés. Et ça, c'est beaucoup plus à la fois respectueux des savoirs eux-mêmes et de la manière d'apprendre des élèves.
Il y a aussi un article très documenté dans ce dossier-là d'Olivier Côté et Catherine Côté qui font l'étude des programmes et des manuels sur une longue période de 1967 jusqu'à 2012. Alors, ils décrivent un peu les grands courants historiographiques qui ont marqué les programmes et les manuels. Est-ce que vous pourriez nous peut-être résumer très brièvement leurs conclusions pour les trois programmes, parce qu'il y a eu trois programmes, d'abord en 67, puis en 82, puis aujourd'hui en 2006-2007.
Bien, ce texte-là qui est très intéressant et qui, si vous ne connaissez pas bien le dossier, là, vous allez en apprendre beaucoup à travers la lecture de ce texte-là, parce qu'il nous amène, il nous refait faire le chemin des différentes réformes de l'enseignement de l'histoire depuis 50 ans, en nous montrant comment les différents programmes ont donné différents manuels. Et ça, c'est intéressant pour deux raisons. D'une part, c'est intéressant parce que ça nous ramène à réfléchir sur l'esprit des différents programmes. Et il nous montre que, par exemple, un programme, il y a eu trois programmes, un en 1967, un en 1982 et un mis en œuvre à partir de 2006-2007 en enseignement d'histoire du Québec au secondaire. Et on voit à travers les manuels que ces programmes-là, non seulement véhiculent des histoires différentes, des visions différentes de l'histoire, évidemment, parce que notre compréhension de l'histoire a évolué, mais aussi parce que l'esprit des programmes a changé. Et ce qui montre, c'est que autant les programmes des années 60 et 80 se voulaient quand même bien arrimer à ce que les historiens faisaient et disaient de l'histoire. Le programme de 1967, bien, il est bien arrimé à l'histoire telle qu'elle existait à l'époque. Le programme de 1982 se voulait bien arrimer au renouvellement des travaux des historiens dans ces années-là.
Dans le sens qui exposait les débats
historiographiques. Les débats qui avaient cours entre les historiens puis les interprétations qu'on appelait plus néo-nationalistes, le rôle de la conquête, par exemple, dans l'histoire, ce genre de choses-là. Puis on voit que les nouveaux programmes, le programme de 2006, eux, ont un peu coupé les amarres avec le travail des historiens.
Ils ne parlent plus des historiens.
Là, leur référence s'est rendue en sciences de l'éducation puis en didactique. Ça ne veut pas dire que les programmes ne sont pas bons, mais ça nous montre deux choses. Ça nous montre que une approche par compétence qui dévalorise les connaissances, ça produit des manuels et des versions de l'histoire qui sont indifférentes à ce que les historiens font. Oui, enseignement de l'histoire qui est indifférent à ce que les historiens font, je trouve ça un peu spécial. Et ça nous montre aussi une autre affaire. Ça nous montre que le contenu des programmes a un impact sur le contenu des manuels. Des fois, on nous dit, il y a des gens, par exemple, comme Jocelyn Létourneau à l'Université Laval, qui disait « Arrêtez de faire tout un foin autour de la réforme des programmes. De toute façon, les enseignants, ils les appliquent pas. Ou c'est la lettre des programmes n'est pas importante. C'est ce qui se passe en classe qui est important. » Il y a toute cette espèce de thèse que, dans le fond, le principal mérite des programmes, en quelque part, même s'ils ne sont pas bons, c'est pas grave, ils ne seront pas appliqués. Mais c'est pas vrai. Parce qu'on voit très bien à travers cette étude, très bien documentée de M. Lemieux et de Mme Côté dans le dossier, que le contenu des programmes et la lettre des programmes, comme leur esprit, a un impact direct sur les outils, les manuels, puis sur la manière d'enseigner en classe. Ça, il faut toujours garder ça en tête.
D'ailleurs, on voit que les programmes, les derniers, là, ceux de 2006, ils sont un peu le résultat de ce qu'il y a eu en 1994, lorsque le ministère de l'Éducation a confié la production des programmes d'enseignement des futurs enseignants d'histoire aux facultés d'éducation. Et c'est à partir de ce moment-là que l'aspect disciplinaire a été réduit beaucoup et ces programmes-là sont surpédagogisés, je peux dire.
Il y a une tendance lourde qui est décrite depuis longtemps, par exemple, par des historiens. Et pas juste en histoire, parce que c'est une tendance lourde qui est vraie en histoire, mais qui est vraie dans l'enseignement des mathématiques, qui est vraie dans l'enseignement des langues, qui est vraie dans l'enseignement des sciences. À savoir la minorisation, la marginalisation des savoirs, des disciplines. Et dans la formation des maîtres, il n'y a pas meilleur indicateur, la formation des enseignants qui vont enseigner aux enfants laisse de moins en moins de place à la formation en discipline. Un futur enseignant d'histoire apprend de moins en moins d'histoire quand il fait son bac en enseignement. Puis c'est vrai pour un enseignant en sciences, c'est vrai pour un enseignant en maths, c'est vrai pour un enseignant en langue. Et ça, c'est un problème parce que... Et c'est un problème même pour si vous faites la promotion d'une approche par compétence à l'école. Parce que ce que dit l'approche par compétence, c'est que au cours secondaire, l'adolescent devrait apprendre pas juste des faits et des dates par cœur dans son cours d'histoire, mais devrait apprendre aussi à interpréter un document, à interpréter des divergences d'opinion sur l'histoire. Par exemple, le fait qu'il y ait des interprétations contradictoires de la conquête, par exemple. Ce qui est une très bonne idée, mais je vous pose la question, comment est-ce qu'un enseignant peut transmettre ça à ses élèves, peut transmettre de telles compétences à ses élèves s'il n'en a jamais fait l'expérience lui-même, s'il n'a pas été formé à l'histoire lui-même.
Mais oui, regardez, juste actuellement, là, pour un enseignant qui fait l'histoire du Canada-Québec, sur ses 4 ans d'études, il va consacrer seulement à peu près 2 ou 3 cours d'histoire du Canada, parce qu'on sait qu'une année, c'est à peu près 10 cours, hein? Et sur 4 ans, une année, c'est sur la pédagogie, une année de stage, une année sur une autre discipline, donc dans l'année où il étudie l'histoire, il va suivre 2 ou 3 cours et il devient prof d'histoire du Canada.
Dans le meilleur des cas, il va terminer son baccalauréat avec, si ça va bien, l'équivalent d'un petit certificat de 8, 9, 10 cours en histoire, pas tout en histoire du Québec. Ça sera beaucoup des cours d'introduction, donc vraiment de surface. Et il les aura même pas suivis dans un ordre. Il va suivre les cours d'histoire quand il y a de la place dans son horaire de cours de pédagogie. C'est-à-dire quand ça bouche un trou. Et c'est très triste. Là, on sort un peu du sujet, mais j'enseigne régulièrement à ces étudiants-là à l'université, puis c'est très triste de voir qu'ils sont très conscients des lacunes de leur formation et qu'ils sont avides et affamés de cours d'histoire lors de leur formation universitaire. Vous leur enseignez de l'histoire, puis ils viennent vous voir, ils ont des yeux brillants, ils vous serrent la main, ils sont heureux de vivre ces cours d'histoire-là parce qu'ils n'en ont pas dans le cours de leur formation.
Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, lorsque la coalition a été mise sur pied en 2009, c'était une de nos préoccupations, c'est-à-dire d'améliorer le contenu disciplinaire pour la formation des futurs enseignants d'histoire. Et malheureusement, ça n'a pas été retenu dans les priorités à la fin parce que ça va coûter cher. C'est toute une question économique. Oui. Mais ça s'impose et je pense que la coalition va certainement continuer à se battre pour ça.
Et ça fait partie d'ailleurs d'enjeux qui sont soulevés dans ce numéro du bulletin d'histoire politique, un texte de Jacques Rouillard, par exemple. Il y a un échange aussi entre un enseignant, François-Xavier Delorme, et un didacticien, Jean-François Gardin, où la question de la formation des maîtres fait partie des thèmes, justement, en fait, des griefs qui sont reprochés à, non pas aux sciences de l'éducation, non pas à l'approche par compétences, qui apportent beaucoup, qui ont beaucoup de bons apports à l'enseignement, qui ont contribué à dépoussiérer l'enseignement, mais dont une version d'une vision trop radicale.
Mais vous trouvez que finalement, les programmes devraient être faits par des gens d'éducation, alors qu'autrefois, si je peux employer ce terme, c'était beaucoup des enseignants, des historiens qui étaient les principaux maîtres d'œuvre des manuels et des programmes.
Les consultations menées sous l'égide du ministère de l'Éducation dans les derniers mois ont mené à de nombreuses recommandations, mais notamment la recommandation suivante qui est d'ouvrir la formulation des futurs programmes d'histoire aux contributions d'acteurs comme les enseignants, à des représentants d'enseignants, à des représentants de didacticiens, oui, mais aussi à des représentants d'enseignants et à des représentants d'historiens qui sont capables de vous dire si le programme se tient debout ou pas sur le plan scientifique, sur le plan de la connaissance. On fait non pas une, mais 2 recommandations à cet effet-là, c'est-à-dire d'avoir un processus de formulation des programmes qui est moins opaque et qui nous prémunirait justement contre les excès d'une approche ou de l'autre.
Parce qu'actuellement, ça échappe aux commissions des études des universités. Hein? Il y a un organisme du ministère qui approuve les programmes et ça échappe aux gens de d'autres disciplines des universités. Il y a quelque chose d'un peu anormal depuis la création du CAPFEU. C'est le comité qui approuve les programmes au ministère. Ça, c'est 94. Et on voit le résultat avec ce programme-là. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a un article de Vaugeois, il y a un article d'Éric Bédard également. Éric Bédard qui critique notre culture politique, notre peur du politique. Il a été un de ceux qui a été le plus virulent pour critiquer le fait qu'il manque une trame nationale.
Tantôt, je disais que le dossier du BHP se proposait de remettre les pendules à l'heure en permettant à certains de sortir d'espèces de caricatures dans laquelle on essayait de les enfermer. Éric Bédard, c'est un bon exemple. On a essayé d'enfermer de façon générale le point de vue en faveur d'une trame nationale et d'une histoire qui tienne compte du fait national. Certains ont essayé de caricaturer ces exigences-là comme étant de l'ultranationalisme propagandiste méchant. Éric Bédard offre un texte très bien écrit, très accessible, qui offre une vision beaucoup plus pondérée de cette défense d'une histoire nationale et d'une présence d'une trame nationale et qui, à mon sens, avec lequel les gens seront d'accord ou pas, mais à partir duquel les gens pourront se faire une opinion beaucoup plus réfléchie de la question. Et il en va de même d'un autre texte qui est celui de didacticiens, Marc-André Etier, Jean-François Cardin, David Lefrançois, qui sont des didacticiens qui, eux aussi, ont souvent été enfermés dans une caricature, celle du pédagogue pété qui propose des approches ultra-radicales. Bien, eux aussi ont saisi l'occasion de vulgariser et d'offrir une version pondérée de leurs idées qui permettra aux lecteurs de se faire une idée plus sereinement sur les mérites de telle ou telle position.
Est-ce qu'on a oublié des contributions peut-être importantes? Là? Je voudrais, parce qu'on doit se terminer bientôt, je ne voudrais pas écarter des choses peut-être que...
Ben, je pense qu'on a évoqué les divers mérites et les divers apports de ce dossier-là, si ce n'est qu'on n'a pas mentionné l'apport, à mon sens, important du duo de Michel Dagenais et Christian Laville, respectivement historienne à l'Université de Montréal et didacticien, qui, tout en étant de fervents défenseurs du programme de 2006, qui ont récemment, dans Le Devoir, formulé une critique très acerbe du fruit des consultations publiques menées par le MELS, proposent, et c'est tout à leur honneur, un texte plutôt pondéré dans le dossier, qui propose un tour d'horizon de débats sur les mémoires et sur l'enseignement de l'histoire dans d'autres pays du monde, en Asie, en Afrique, sur différents continents, pour montrer que le Québec n'est pas le seul à connaître des débats sur notre compréhension de l'histoire et le rôle que l'histoire devrait jouer dans la société, et qui nous aide en fait à remettre en perspective le débat que l'on connaît actuellement. Et d'une manière, à mon sens, qui devrait nous aider à décaricaturer le débat actuel et à l'aborder de manière plus fine.
Écoutez, on doit mettre un terme à cet entretien. Je vous remercie beaucoup, M. Prudhomme, et j'espère que nos auditeurs et auditrices vont lire ce dossier.
J'espère qu'ils se rueront sur ce numéro.
Qui va être en vente en librairie et qui se retrouve aussi sur Érudit, le texte numérisé. Alors, merci beaucoup et à une prochaine.
Merci beaucoup.
Venez d'entendre Julien Prudhomme, secrétaire général du Comité de travail sur l'enseignement de l'histoire, qui remettait en février dernier son rapport intitulé « Le sens de l'histoire ». Julien Prudhomme a également coordonné le second dossier du bulletin d'histoire politique printemps-été 2014 intitulé « Le débat sur l'enseignement de l'histoire ». Ainsi s'achève cette émission et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un seul mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain, 18h, sur les ondes de Radio Ville-Marie, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.
Thank you.